des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Ici Ricardo.
Et Émilie, marchande IGA.
On a envie de vous inspirer à bien manger.
À moins de 5 $ la portion.
Suffit de repérer les produits Valeurs Sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
Les Valeurs Sûres, c'est bien pensé, hein?
Bien sûr!
Détails sur IGA.net.
Cube Radio.
Sophie Durocher.
Sophie Durocher.
Sophie Durocher.
Mon nom est Sophie Durocher.
Sophie Durocher. Des opinions éclairantes qui font la différence.
Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bon jeudi. Est-ce que vous avez vu sur le site de Santé Québec l'espèce d'organigramme de charte extrêmement compliqué qui s'intitule « Échelle de temps pour l'utilisation des différentes méthodes diagnostiques de la COVID-19 ». Écoute, il y a un serpent vert, un serpent jaune, le nombre de jours, le contact avec un cas, à quel moment il faut faire les symptômes, les tests rapides, combien de jours pour un test PCR, le début des symptômes, la période de contagiosité. Écoutez, il y a 50% d'analphabètes fonctionnels au Québec. On est en train de leur parler de période de contagiosité. Contagiosité. C'est 5 syllabes. 90% des gens savent même pas ce que ça veut dire, la contagiosité. Il y a vraiment un problème de communication au gouvernement du Québec. Faut que vous rendiez les choses simples, que tout le monde comprenne. Il faut que ce soit clair à quel moment on utilise les tests rapides. Quand j'ai vu cette espèce de charabia, puis cette espèce de charte compliquée avec 8 couleurs différentes qui donne le qui donnerait un mal de tête à un caméléon, j'ai poussé un découragé. Ben voyons donc.
De la culture aux affaires publiques.
Vous écoutez
Sophie Durocher.
Cube Radio.
La vaste majorité des gens à travers ce pays savent qu'il faut faire des sacrifices pour se protéger les uns les autres. Et quand il y a une gang de sans-dessins qui décide de partir comme des ostragos en vacances, c'est extrêmement frustrant, c'est démoralisant. Et je peux vous dire que Transport Canada et le gouvernement du Canada prend ça très au sérieux. On va faire des suivis sur comment ça s'est passé.
Alors, ce que vous venez d'entendre, celui que vous venez d'entendre, c'est notre premier ministre, Justin Trudeau, premier ministre du Canada, qui réagissait donc à ce party d'influenceurs ou de créateurs de contenu ou d'ex-candidats de télé-réalité, donc ce party qu'ils sont allés faire à Cancun, au Mexique. Et évidemment, depuis 24-48 heures, on n'a jamais autant entendu parler des influenceurs. C'est quoi la différence entre un influenceur et un créateur de contenu? Pourquoi autant de visibilité pour des gens qui ont participé à des télé-réalités? J'avais envie de parler de tout ça avec Claudie Mercier, qui est une fille qui a une tête sur les épaules. Elle est créatrice de contenu. Elle est extrêmement populaire sur les médias sociaux. Elle a participé à Occupation Double Afrique du Sud en 2019. Elle est au bout de la ligne. Claudie, bonjour!
Allô, ça va bien?
Ben moi, ça va très bien. Et vous, Claudie, vous êtes vous-même créatrice de contenu, ce qu'on appelle influenceuse. D'ailleurs, on va peut-être commencer par le début. C'est quoi la différence entre quelqu'un qui est influenceur et quelqu'un qui est créateur de contenu, Claudie?
Ben, sincèrement, je pense que les deux vont un peu ensemble parce que même des fois, moi-même, je me dis influenceur, d'autres fois, je me dis créatrice de contenu. Mais tu sais, c'est certain que si on se focus juste sur la création de contenu, c'est tout ce qui met de l'avant, par exemple, des vidéos que tu vas créer sur YouTube, sur TikTok, tu vas faire des photos, tu vas créer du contenu pour des compagnies qui ont décidé de t'engager pour te payer. Si, mettons, on va plus loin, c'est certain qu'un influenceur a le devoir, en fait, va influencer sa communauté. Et un influenceur, à la base, c'est quelqu'un qui est suivi, selon moi, par un certain nombre de personnes. Donc, bien évidemment, toutes ses actions, tout ce qu'il va faire va influencer le public qui va le suivre. Donc, tu sais, je pense que les deux viennent vraiment ensemble. Je pense qu'à la seconde, c'était influenceur, c'est un peu créatrice de contenu. Quand t'es créatrice de contenu, c'est un peu influenceur. Je pense que les deux viennent d'accord. un peu ensemble.
T'sais. D'accord. Alors, vous, vos chiffres sont absolument hallucinants. Donc, depuis que vous avez participé à Occupation Double, vous avez, je vais donner les chiffres parce que moi, je suis tombée à terre, 1 million de personnes qui vous suivent sur TikTok, 117 000 sur YouTube, 300 000 sur Instagram. Quand vous voyez... les gens qui ont fait le party dans l'avion, qui sont allés à Cancun. D'abord, est-ce qu'on vous avait approché, Claudie, pour faire partie de ce voyage-là? Ou est-ce que vous faisiez pas partie du groupe? Juste nous situer par rapport à ce voyage-là.
En fait, pas du tout. À la base, je suis pas une fille de party. Tout ce qui est partir de groupe comme ça, ça m'intéresse pas, puis surtout pas en temps de pandémie. Donc non, je ne me suis pas fait un projet pour aller à Tulum, Cancun, peu importe. C'est pas mon genre de place, c'est pas le genre de truc que je veux montrer sur mes plateformes. Puis je pense que personne devrait se vanter d'avoir été là. Personnellement, c'est mon avis, puis je pense que plusieurs Québécois qui présentement sont de mon avis que les images qu'on a vues sont extrêmement choquantes, surtout en temps de pandémie où ce qu'on est supposé en fait rester chez nous ou du moins respecter les règles de distanciation aussi avec le masque et tout. Moi, si tu veux mon honnête opinion, personnellement, j'ai rien avec les gens qui voyagent. Je pense que c'est correct. Laissons vivre la vie à toutes les personnes qui veulent la vivre. Mais moi, ce qui m'a dérangée, c'est vraiment de voir le non-respect des règles de l'aviation. Donc vraiment, on peut voir qu'il y a des gens qui vapaient à l'intérieur, des gens qui avaient apporté leur propre bouteille d'alcool. Ça sautait comme si c'était sur le dance floor. Comme Justin Trudeau le dit, c'est extrêmement dérangeant, des images comme ça. Surtout quand on sait qu'il y a des infirmières, des médecins, des gens du système de santé qui travaillent fort. Je comprends pas comment ça a pu se ramasser sur les réseaux sociaux. Je comprends pas comment qu'on peut se vanter de ça, sincèrement.
Mais en même temps, Claudie, quand on est un influenceur, quand on est quelqu'un comme vous qui a participé à Occupation Double, oui. Votre vie, vous les influenceurs, votre vie, c'est justement de vous filmer en train de faire différentes choses et vous vivez par l'œil de la caméra, vous vivez par vos selfies et vous vivez par le fait de partager votre quotidien. Donc, c'est pas quand même si surprenant que ça que les gens qui étaient sur l'avion aient partagé ce contenu-là.
Non, honnêtement, je suis tellement d'accord avec vous, puis heureusement, en fait, que c'était des influenceurs qui étaient à bord, parce que il y a des images et il y a des vidéos qui prouvent que les comportements ont réellement eu lieu. Puis moi, en fait, c'est que je suis venue à me questionner, de me dire, en tant qu'influenceur, c'est veux pas, c'est certain que on a une communauté qui nous suit, puis cette communauté-là, c'est grâce à eux qu'on peut exercer notre métier. Moi, je suis tellement reconnaissante de toutes les personnes qui me suivent. C'est grâce à eux que je peux vivre de ma passion. Qu'on dirait que je peux pas concevoir que des gens qui sont suivis par plein de personnes osent agir de façon tant irrespectueuse que ça. Même si, comme vous dites, en fait, c'est vrai que ça fait du sens qu'ils aient pris des vidéos parce que les gens veulent voir du contenu. Les gens aiment le divertissement. Puis comme on le voit, les gens aiment le drama aussi. C'est juste, tu sais, je pense que le vrai visage de chaque personne finit toujours par sortir tôt ou tard. Puis je pense qu'on a pu voir que certaines personnes étaient peut-être un peu plus égoïstes, un peu plus irrespectueuses dans la vie. Fait que c'est malheureux, mais ces personnes-là vont devoir vivre avec les conséquences de leurs actes, tu sais.
Donc, est-ce qu'il y en a parmi ceux qui étaient dans l'avion, vu que vous avez participé, vous, à Occupation Double Afrique du Sud, il y en a là-dedans que vous connaissez, avec qui vous avez fait OD en 2019?
Oui, j'en connais, mais heureusement, peu importe, ces personnes-là, en fait, on a coupé contact tout de suite, en fait, à notre sortie d'Occupation Double. Donc, moi, c'était pas des personnes qui faisaient partie de mon cercle. Oui, c'est certain que dans le milieu, en fait, tout le monde se connaît. T'sais, on s'est probablement tous vus une fois, deux fois. Donc, c'est certain que ça peut apporter un certain malaise parce que tu as déjà vu ces personnes-là, puis tu vois en fait une autre facette de ces personnes-là. Donc des fois, c'est vraiment surprenant de se dire « Oh my God, OK, je pensais pas que cette personne-là était comme ça, tu sais. »
Ça vous a déçu?
Ben c'est certain, je pense que, tu sais, là je parle pour moi, mais je pense aussi que de ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux, il y a plusieurs personnes qui sont déçues, tu sais, veux pas, je pense que n'importe qui ça leur aurait été une gang d'influenceurs, une gang de médecins, une gang d'avocats, ça leur aurait été frustrant de voir ça. Puis peut-être que justement, si ça avait été une gang de médecins, ils n'auraient pas pris de vidéos, fait que ça l'aurait pas apparu. Mais ce qui est fun avec les influenceurs, c'est qu'on peut dresser un portrait global de la société. Il y a réellement des gens dans la société qui sont merveilleux. Je pense notamment à la créatrice de contenu, Raphaëlle Roy, qui je trouve qui est tellement inspirante dans tout son contenu. Mais on voit l'autre côté de la médaille de des influenceurs, des créateurs de contenu qui, eux, n'ont peut-être pas les mêmes valeurs que certains. Fait que, tu sais, ça dresse vraiment un portrait global de la société. Fait que c'est quand même très intéressant de voir ça, je trouve. C'est un phénomène, les influenceurs, mais c'est aussi le fun de voir qu'il existe différentes personnalités dans ce monde, puis que, justement, les influenceurs en représentent une partie, tu sais.
Oui. Est-ce que vous pensez, très brièvement, Claudie, est-ce que vous pensez que cet incident-là, ce qui s'est passé, que ça va faire une mauvaise réputation aux influenceurs en général? Que ça va avoir des retombées, par exemple, sur vous et sur d'autres qui font un beau travail, mais que cette réputation-là de fêtard, sans conséquence, préoccupé par son nombril, que ça va rejaillir sur vous?
Pas nécessairement. Je crois pas, parce qu'en fait, peut-être que ça va dépendre des générations. Peut-être qu'il y a différentes générations qui savent pas nécessairement c'est quoi un influenceur ou oui. qui, justement, jugent déjà un peu le métier d'influenceur. Mais moi, je pense que si tu fais bien ta job, puis si tu es une bonne créatrice de contenu qui s'associe, par exemple, à des bonnes causes ou juste qui fait du contenu divertissant, parce que moi, je pense pas qu'un influenceur doit se prononcer sous tous les sujets et devenir une politicienne. Mais je pense que, être un influenceur à la base, c'est quand même de montrer des images qui sont quand même respectueuses. T'sais, moi, je pense qu'il y a une base d'envie, il y a la base du respect et on a pu voir qu'il y en a qui n'ont pas le même respect que nous, on peut
Absolument.
Avoir. Donc, je pense
Claudie,
pense pas que ça va ternir notre réputation, sincèrement, là.
En tout cas, vous faites un super bon travail et puis en plus, vous êtes, vous parlez très ouvertement, par exemple, de vos problèmes d'anxiété, vous parlez ouvertement de santé mentale et ça, c'est très important. C'est pour ça que les jeunes vous aiment beaucoup. Merci beaucoup, Claudie, d'avoir accepté de venir nous parler aujourd'hui puis de remettre un peu les pendules à l'heure et de nous éclairer sur ce phénomène-là des influenceurs. Je rappelle que vous êtes créatrice de contenu, ex-candidate à Occupation Double en Afrique du Sud en 2019 et écoutez, peut-être que vous allez avoir encore plus que votre million de fans sur TikTok après cette entrevue. Merci beaucoup, Claudie.
Hey, merci beaucoup. Ça me touche vraiment ce que vous dites pour vrai. Puis j'envoie de l'amour à tous ceux et celles qui écoutent ça. Alors, je sais pas, vous êtes super dans cette pandémie. On va s'en sortir.
Vous êtes gentils. Merci beaucoup, Claudie.
Mais merci à vous.
Découvrez le nouveau café érable Pacan de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Sophie Durocher.
Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
Sophie Durocher.
Alors, vous l'avez vu dans le Journal de Montréal de ce matin, Guillaume Lemaitre-Vierge, comédien, animateur, réalisateur, qui poursuit le Journal de la presse pour 1,85 million. Il est très mécontent. Il est absolument furieux que la presse ait révélé l'automne dernier son statut vaccinal. Donc, il dit, ben, ça porte atteinte à ma réputation, ça m'a causé des humiliations, ça a surtout causé la perte de différents contrats. On va parler de tout ça avec Myriam Segal, qui est chroniqueuse avec nous pendant toute la semaine pour la rencontre Segal-Durocher. Myriam, donc, ex-animatrice et professeure. Bonjour, Myriam.
Allô?
Est-ce qu'il a raison, Guillaume Le Métivierge, de se dire choqué, frustré et attristé par le fait que dans la presse, on ait révélé son statut vaccinal?
Écoute, moi, je pense que c'est une très mauvaise chose. Il ramène la question à l'avant-plan. C'est une mauvaise chose pour lui. Par contre, je pense que pour le journalisme, c'est une bonne chose.
Ah oui? Explique-moi.
Je pense que pour les vedettes, c'est aussi une bonne chose parce qu'il va forcer une certaine réflexion. Qu'est-ce qui est public? Qu'est-ce qui est privé? Les vedettes ont une tendance à étaler leur vie privée de façon très publique. Par exemple, Guillaume Le Métivierge tient un blog avec des amis dont le sujet est essentiellement sa vie de père de famille. Mmh. À partir du moment où tu exploites ta vie privée de façon très publique, est-ce que ton statut vaccinal fait partie du privé ou fait partie du public?
Excellente question.
Moi, je pense que pour lui, c'est une mauvaise chose. Parce qu'il se remet sous le spot, alors qu'on l'avait presque oublié, les influenceurs l'avaient supplanté. Mais que pour le journalisme, si ça va jusqu'au procès et si ça va jusqu'à un jugement, c'est plutôt une bonne chose. Parce qu'on va pouvoir clarifier, les tribunaux vont pouvoir clarifier qu'est-ce qui est public, qu'est-ce qui est privé.
Oui, c'est une bonne chose, puis en même temps, Myriam, ça va dépendre, c'est un petit peu un 25 sous lancé dans les airs, parce que, évidemment, ce jugement-là, si jugement il y a lieu, va faire jurisprudence, et évidemment, nous comme médias, si le juge émet des règles très strictes, bon, on va se dire, c'est un frein à la liberté d'expression médiatique. C'est en fait, la communauté journalistique, on fonctionne un peu toujours de la même façon. Si c'est un jugement en notre faveur, on est bien content. Si c'est un jugement qui restreint notre liberté d'action, on va la dénoncer. Donc, faut faire attention à ce qu'on souhaite quand on est journaliste,
oui,
parce que ça va peut-être être plus de règles.
Et je pense aussi qu'il faut que les jeunes vedettes qu'on est en train de fabriquer à une vitesse VV prime par toutes sortes d'émissions de télé-réalité ou d'émissions plus vertueuses comme Star Academy, que j'aime beaucoup, je pense que toutes ces jeunes vedettes doivent réfléchir très tôt dans leur carrière à ce qui est privé et à ce qui est public. Si tes relations de couple font la une des journaux et que tu l'étales, attends-toi à ce que le jour où ton couple va pas bien, ben ça fasse la une des journaux puis que ça te fasse de la peine.
Oui, c'est intéressant ce que tu dis, mais même...
La réflexion que Guillaume Le Métivierge amène par cette poursuite est en soi salutaire. Je suis un peu inquiète cependant parce que c'est évident que le journal La Presse n'a plus les reins aussi solides qu'avant et on risque fort de se retrouver devant une entente hors cours dont les conditions sont confidentielles. Ça fait que tu sauras jamais qui a eu raison et qui a eu tort là-dedans.
Oui, c'est possible que ça se règle en effet en privé.
Mais
et que
j'aimerais ça, moi, qu'on clarifie les choses. Est-ce qu'à partir du moment où tu es une personnalité publique qui exploite ta vie privée pour gagner ta croûte, où s'arrête ta vie privée et où commence ta vie publique? Est-ce que tu as le droit de décider que ce qui te tente est public, mais ce qui te tente pas est privé?
Voilà, et c'est intéressant que tu soulèves ça parce que replaçons-nous dans un autre contexte très différent. Là, je tiens à le spécifier, je fais pas de parallèle exact, mais rappelons-nous par exemple quand Joël Legendre s'était fait pogner par le Journal de Montréal parce que il avait exhibé ses parties intimes dans un parc à Longueuil. Il avait reçu donc une contravention et le Journal de Montréal était tombé là-dessus. Il avait publié cette information-là. Et là, Joël Legendre disait, ben voyons, c'est ma vie privée, ça n'a pas été... pourquoi? Et là, moi, j'avais...
L'administration de la justice est publique.
Voilà. mais moi, ce que j'avais fait, le parallèle...
Dans le cas de Guillaume Le Métivierge, c'est comme plus borderline, hein?
Oui, mais quand même, moi, le parallèle que j'avais fait à l'époque, c'est que j'étais retournée dans différentes occasions où Joël Legendre avait fait rentrer les caméras chez lui. Il avait donc eu ses deux petites filles avec une mère porteuse. Les caméras étaient rentrées. C'était l'émission Accès illimité, hein, qui porte très bien son nom. Il nous avait montré même la chambre de ses enfants. Et tu sais, c'était vraiment, tu peux pas faire rentrer les caméras plus dans ton intimité que ça. Et c'est parce qu'il reprochait aux journalistes de l'avoir poursuivi. Tu sais, il y avait une caméra du Journal de Montréal qui l'avait suivi dans son auto et tout ça. Et là, il disait, ben là, vous faites une intrusion dans ma vie privée. Oui, mais c'est ça, c'est que tu peux pas jouer sur les deux côtés là, de la médaille.
Moi, je me rappelle avoir donné une formation à des jeunes qui participaient à un concours de chansons dans mon patelin. Puis je leur avais dit, faites attention quand vous répondez. D'abord, je leur expliquais comment répondre aux questions. Et puis ensuite, oui. quand vous répondez à une question sur votre vie privée, ben vous commencez à accepter que votre vie privée ne soit plus privée.
Voilà.
Mais tu sais, l'intimité n'existe plus beaucoup. On l'a vu avec les influenceurs. On parle maintenant plutôt d'extimité. C'est-à-dire que tout ce qui était intime autrefois devient très, très public. Sauf que, est-ce que tu peux décider, toi, ce qui est public et ce qui ne l'est pas?
Ouais. Mais la question se pose aussi, tu vois, les influenceurs, justement, certains qui étaient sur le vol de Sunwing, certains qui sont revenus quand même par avion avec un vol d'Air Canada hier. Ils ont été accueillis à l'aéroport par deux de nos collègues, donc Yves Poirier dans un cas et Olivier du Journal de Montréal. Et ils sont là, puis ils disaient, laissez-moi tranquille, puis vous avez pas d'affaire à me mettre un micro dans le visage, puis une caméra dans le visage. Attends deux secondes, toi. C'est parce que quand tu étais dans l'avion, c'est toi-même qui te filmais. Non seulement tu t'es filmé, mais tu as mis ces images-là sur les médias sociaux dont tu t'es auto-incriminé. Donc, c'est quand même délirant, là.
Absolument. Puis leur réponse est assez édifiante sur leur quotient intellectuel. Mais je veux pas m'étendre là-dessus. Je trouve que sur le plan du journalisme, la poursuite de Guillaume Le Métivierge est peut-être une bonne chose. Pour lui, oui. Je pense que c'est une mauvaise chose.
Oui, puis t'as tout à fait raison de dire qu'on n'en parlait presque plus. En même temps, il y a eu quand même eu tout un sketch sur lui où il était extrêmement bien imité par notre amie Guylaine dans le bye-bye, donc il était quand même un petit peu dans l'actualité. Mais tu sais, c'est ce qu'on appelle aussi l'effet Streisand. C'est en référence à Barbara Streisand, il y a plusieurs années de ça, il y avait un journal pas très connu qui avait fait un reportage sur une maison qu'elle venait de s'acheter. Et elle a poursuivi le journal en disant « Vous n'avez pas d'affaire de montrer des images de ma maison et de dire combien je l'ai payé. » Sauf que personne n'avait vu passer le texte. Et donc, elle, en faisant une poursuite, a fait en sorte que tout le monde est allé voir les images. Tout le monde a su où elle habitait. Tout le monde a su combien elle avait payé pour sa maison. Et depuis ce temps-là, c'est ce qu'on appelle l'effet Streisand. C'est-à-dire que si tu attires l'attention de tout le monde sur un truc parce que tu penses que toi, ta réputation a été atteinte, ben, fais attention parce que tu vas peut-être justement contribuer
à ce que... T'as l'effet recherché au bout du compte.
Exactement. Voilà. Donc, c'est peut-être ce qui est arrivé avec Guillaume Le Métivierge parce que je pense honnêtement qu'en 2022, tout le monde avait à peu près passé la page, puis tout le monde était... Tu sais, je veux dire, c'est un comédien extraordinaire, c'est un animateur fabuleux. Je pense, pour avoir parlé à des gens qui travaillent avec lui comme réalisateur, que c'est un excellent réalisateur. Donc, je pense qu'il serait retombé sur ses pattes, puis il aurait très bien pu continuer sa carrière sans aucun problème. Puis on le voit de toute façon dans l'émission.
À chaque fois que la poursuite va franchir une étape, à chaque fois, on va refaire la manchette, puis on va se demander, coudonc, y es-tu vacciné à ça?
Oui, c'est ça. Puis en plus, il y a un collègue du journal qui lui a parlé et il a refusé de dire c'était quoi son statut vaccinal. C'est quand même bizarre parce il avait fait...
Il peut plus répondre à cette question-là.
Ben voilà!
Il poursuit la presse en leur disant que c'est confidentiel. Fait que s'il répond à la question, il vient d'accepter l'idée que c'est public. Il peut plus répondre à cette question-là. Il se met dans une situation infernale. Mais je pense qu'effectivement, on a besoin d'un jugement qui va nous tirer un peu plus la ligne sur ce qui est privé et public plutôt que d'aller de poursuite en poursuite.
Oui. Myriam, ton deuxième sujet dont tu nous veux parler, nous parler aujourd'hui, c'est une réaction à la conférence de presse du ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, hier. Tu m'envoies des petites notes pour me parler de tes sujets. Tu m'as dit, il est aussi mauvais que le commandant du vol de Sunwing. Qu'est-ce que tu veux dire exactement?
Le commandant du vol de Sunwing aurait dû faire atterrir en urgence son avion au premier aéroport de dégagement qu'il avait sur sa route. Quand un passager s'empare du système de transmission à bord sans la permission des agents de bord, il y a matière à un atterrissage d'urgence dans un aéroport de dégagement. Il n'aurait jamais dû se rendre à destination.
Et de faire demi-tour.
Et ça ne m'étonnerait pas que le commandant du vol de Sunwing soit blâmé par Transport Canada.
Ouais. Et donc, le parallèle avec Jean-François Roberge, c'est que lui aussi aurait dû faire un atterrissage d'urgence.
Ben, le problème de Jean-François Roberge, c'est qu'il est pas bon non plus. Il sait pas ce qui se passe dans son avion. Il comprend pas ce qui se passe dans son avion. Il sait pas ce qui se passe dans son avion. Ou il s'est mis des écouteurs puis des lunettes fumées puis il veut pas le savoir ce qui se passe dans son avion. Depuis le début de la pandémie, il est pire que Trudeau. Il y a toujours une coche de retard. Trudeau, il y a toujours une coche de retard sur la gestion de ses frontières. Ben, Jean-François Roberge, il y a toujours une coche de retard sur ce qui se passe dans les, dans ses écoles. Alors, par exemple, les détecteurs de CO2 vont être installés au mois de février, vont toutes les avoir. Ça, Sophie, les détecteurs de CO2, là,
c'est une blague.
Comme si tu manquais d'huile dans ton moteur manque d'huile dans ton auto, là, puis t'as un voyant qui est allumé qui dit que tu manques d'huile, puis tu dis, je vais me rajouter un deuxième voyant à la place de t'arrêter puis de mettre de l'huile.
Ben, c'est un très bon parallèle.
Les détecteurs de CO2, c'est juste un système d'alerte. Ça règle zéro problème.
Oui, c'est comme si le feu est pogné dans la maison, puis tu fais juste rajouter un autre détecteur d'incendie, mais c'est parce qu'on le sait que le feu est pogné. Ce qu'on veut, c'est éteindre les flammes. Et c'est pas ça qui fait du tout.
N'importe quel professeur va te dire qu'aussitôt qu'on démarre les systèmes de chauffage à l'automne, les maladies se répandent dans l'école aussi bien que le variant Omicron.
Oui.
La ventilation dans les écoles, ça a toujours, toujours, toujours été un problème. Alors lui, ce qu'il fait, c'est qu'il rajoute des détecteurs de CO2. Totalement inutile. On le sait qu'il y a un problème, et ce qu'il faut régler, c'est le problème, pas le signalement du problème.
Oui.
Deuxièmement, les masques N95. Il laisse, à côté de lui, Horacio Arruda, dire que les N95, bon, c'est pas si bon que ça, c'est dû rapporter, puis les experts nous disent que c'est pas nécessaire pour les écoles. Regarde, si les professeurs veulent des N95, donne-leur des N95. Les professeurs sont précieux, ils sont rares, tu veux qu'ils restent au travail, donc tu leur donnes le matériel dont ils ont besoin pour travailler, point à la ligne. Alors, ministre d'Éducation, il peut très bien se redire face à la santé publique et dire, regarde Horacio, tu t'es gouré une première fois dans l'histoire des masques. Mes professeurs veulent des masques N95, on leur donne les masques N95, point à la ligne. Là aussi, je le trouve très, très, très mollasson. Sans compter qu'il a été soporifique, j'ai failli m'endormir, moi. Pourtant, j'étais sur le bout de ma chaise pour l'écouter.
Écoute, tu sais ce que j'ai fait ce matin?
C'est la question du calendrier qui me dérange beaucoup dans sa façon de
piloter
le système scolaire.
Il veut absolument un retour le 17 janvier. Ouais.
Oui, le retour est officiel est le 17 janvier. Mais il considère, si tu as bien écouté la conférence de presse, là, si tu t'es pas endormi avant, là, il considère que la semaine prochaine, du 10 au 17, donc les 5 jours de la semaine prochaine, sont considérés comme des jours de classe quand même. Parce que les élèves vont avoir du travail à faire à distance. Ça, c'est pour maintenir artificiellement les 180 jours de classe obligatoires au calendrier scolaire du Québec. Et Sophie, je sais pas si tu t'es déjà amusée à faire ça, moi je l'ai fait pour mes enfants, à compter le nombre de jours de classe réels où ton enfant va à l'école au Québec. On est en Occident, probablement la juridiction où les enfants vont le moins à l'école.
Ah oui, ah ça je ne savais pas. Quand on enlève tous les congés pédagogiques et tout ça, là.
À 180 jours de classe, plus les congés pédagogiques, là, normalement on est déjà limite, on est comme les États-Unis. En Europe, c'est 198. Au Japon, on n'en parle pas, c'est 230.
Oui.
Mais en plus de ça, la réalité, c'est qu'on utilise toutes sortes de petits moyens pour que des jours soient considérés comme des jours de classe alors qu'ils n'en sont pas. Par exemple, quand il y a un examen du ministère le matin et que les élèves vont pas en classe l'après-midi, c'est considéré comme un jour de classe complet.
C'est quand absolument ridicule.
Quand les professeurs te remettent le bulletin l'après-midi de ton enfant, c'est considéré comme un jour de classe.
Donc c'est vraiment trop peu. On va devoir s'équiter là-dessus, Myriam, parce que c'est vraiment tout le temps qu'on a. Mais on regarde ça. Mais c'est vrai que c'était extrêmement décevant, la conférence de presse du ministre de l'Éducation hier. Vraiment, on navigue dans le brouillard. C'est absolument hallucinant. Puis je comprends pas. Il y a des spécialistes qui disent depuis des mois. Je pense à Nima Machouf, je pense à Amir Kadir, je pense à plein d'autres. Ventilation. Il fait une conférence de presse, on était tous convaincus qu'il a annoncé quelque chose pour les ventilations. Rien du tout, c'est absolument déplorable. Myriam, merci beaucoup, puis on se reparle demain.
Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
Vous écoutez
Sophie Durocher.
Quand on se regarde, on se désole. Quand on se compare, on se console. Au cours des prochaines semaines, j'ai envie de parler à des Québécois qui sont installés un petit peu partout à travers la planète pour voir comment ça se passe chez eux, dans leur nouveau pays d'adoption. Puis on commence aujourd'hui une entrevue avec Vincent Daigle, qui est un Québécois qui est installé en Suisse depuis plusieurs années, où il est, écoutez, son titre, c'est vraiment, là, on est vraiment en plein dans le sujet médical en cette période de pandémie. Il est coordinateur de la réponse médicale opérationnelle au centre opérationnel COVID du canton de Vaud, en Suisse. Il est au bout de la ligne. Monsieur Daigle, bonjour.
Bonjour.
Ça me fait très plaisir de vous parler. Juste brièvement, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, que vous nous racontiez comment ça se passe en Suisse, comment un petit Québécois s'est retrouvé coordinateur de la réponse médicale en Suisse, Monsieur Daigle?
Alors, c'est une longue histoire. Moi, tout d'abord, je suis de formation, je suis infirmier. Et puis, je suis arrivé en Suisse il y a 14 ans de cela. J'ai travaillé longtemps aux urgences. Et puis, d'un fil en aiguille, j'ai travaillé pour le médecin cantonal, qui est un peu la santé publique dans le canton de Vaud en Suisse. Et puis, je me suis retrouvé... étant donné que le COVID prenait le pas sur tout ce qui se passe en termes de santé publique, je me suis retrouvé propulsé, on va dire, dans cette gestion de crise.
Incroyable. Et vous êtes originaire de quelle ville, de quel endroit au Québec?
La région de Shawinigan.
Donc, un jeune homme de Shawinigan, infirmier, qui se retrouve donc responsable de la réponse à la COVID en Suisse. Alors, tracez-nous un petit peu un portrait, Monsieur Daigle, de la situation en ce moment en Suisse. La proportion de la population qui est vaccinée là-bas, c'est quel pourcentage?
Alors, le pourcentage est autour de 68%, en tout cas, qui a reçu une première dose. Vacciné complètement, et puis environ 69% une dose.
D'accord. Donc, les gens sont moins vaccinés qu'au Québec. Et quelle est la situation dans les hôpitaux? Est-ce que ça déborde comme ça déborde ici? Ou est-ce que, au contraire, on est capable de faire face à cette vague d'hospitalisation?
Actuellement, on a une augmentation des hospitalisations dans les milieux non aigus, donc pas les soins intensifs, tout ce qui est soins, mais des soins quand même modérés, on va dire. Et puis, tout ce qui est soins intensifs, on est dans une stabilisation des hospitalisations, voire même une diminution des hospitalisations.
Une diminution des hospitalisations aux soins intensifs. Donc, ça voudrait dire... théoriquement, Monsieur Daigle, que la situation serait en train de se résorber. Donc, on aurait atteint un certain pic et qu'après, on est dans une lente descente. Est-ce que ce serait une bonne analyse?
Pas tout à fait, parce que en fait, aujourd'hui, le variant Omicron a pris le pas sur le Delta. Il est devenu majoritaire. Donc, on a environ deux tiers des contaminations qui sont dues au variant Omicron. Et puis, on fait face à une immense vague de contamination dans la population. Ce qui se passe, c'est qu'en tout cas, ce qu'on observe, c'est qu'au niveau des variant Omicron, il y a quand même un peu moins de patients aigus qui vont se retrouver aux soins intensifs. Mais ce qui nous fait un peu peur, c'est la masse de personnes. Donc, même si les gens se retrouvent un peu moins aux soins intensifs, si on a beaucoup plus de personnes infectées, ben ça fait finalement un peu plus aux soins intensifs. Mais pour l'instant, on n'observe pas tout à fait ça.
D'accord. Comment les Suisses, ou en tout cas dans le canton où vous êtes responsable, donc au centre COVID, comment on fait face à la situation? Je prends par exemple l'exemple des tests rapides. Ici au Québec, c'est un petit peu le bordel, pardonnez-moi l'expression, c'est un petit peu le foutoir. Mm-hmm. On ne fait plus des tests PCR pour l'ensemble de la population, c'est seulement certains segments. C'est extrêmement difficile d'avoir des tests rapides. C'est vraiment distribué au compte-goutte. Les gens doivent carrément se battre pour en avoir. C'est quoi la situation en Suisse?
Alors, chez nous, en fait, on a assez de tests pour toute la population. On a plusieurs fois changé la stratégie. Une certaine période, les gens recevaient gratuitement des tests, des autotests à la maison pour pouvoir se tester. Aujourd'hui, on peut acheter des tests rapides dans les pharmacies. C'est un petit peu rentré dans les mœurs où les gens, avant d'aller faire pendant la période des fêtes, avant d'aller voir la famille, ben, tout le monde se fait un petit autotest pour être sûr qu'on ne va pas aller contaminer tout le monde. On a beaucoup, beaucoup de capacités de testing en Suisse. Par contre, la difficulté qu'on commence à rencontrer, c'est la capacité d'analyse des tests PCR. Étant donné qu'on en fait beaucoup, 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 ben on commence à plus avoir assez de place dans les labos pour analyser tous ces tests.
Je comprends. Par contre, c'est intéressant ce que vous nous dites, c'est que les gens, donc, qui ont en bonne quantité des tests rapides à la maison, avant de décider d'aller voir des amis ou de la famille, se testent, et c'est comme un modus operandi, là, c'est vraiment rentré dans les mœurs. Ça fait combien de temps que les gens en Suisse ont des tests rapides chez eux à la maison?
Je dirais que ça doit faire environ cinq mois, je crois.
Ça fait longtemps.
Il y a une distribution vraiment à toute la population. Oui, ça fait un bon moment. Ouais.
On est jaloux de vous. Donc, vu que vous nous dites que les gens, pendant le temps des fêtes, se testaient chez eux avant d'aller voir de la famille ou de voir des amis, ça veut dire que vous avez eu le droit pendant le temps des fêtes. Donc, les mesures restrictives qu'on a au Québec, où on peut plus voir personne depuis le 31 décembre, où les cinémas sont fermés, les salles de spectacle sont fermées, ça n'est pas la situation en Suisse.
Non. Donc, il y a une mentalité très, très, très différente en Suisse. On se fie beaucoup sur la responsabilité citoyenne. Donc, on n'a absolument rien fermé. Par contre, le pass sanitaire est assez fort. Donc, il y a plusieurs restrictions. On doit être ou vacciné ou guéri. Et puis, tous les endroits qui sont fermés, comme les discothèques, où on ne peut pas porter le masque debout, là, non seulement il faut être vacciné et guéri, mais en plus, il faut faire un test qui date d'au moins 24 heures.
Ah oui, mais les discothèques sont ouvertes, c'est juste qu'il faut prouver que dans moins de 24 heures, on a fait le test. Et est-ce que le test rapide qu'on a à la maison est valide ou il faut que ce soit un test PCR certifié?
Un test rapide peut fonctionner, mais il faut que ça soit fait dans un centre de test certifié.
Incroyable, c'est absolument fascinant. Et donc, la vie au quotidien doit être assez agréable quand même. Ça veut dire que les restaurants sont ouverts, les cinémas sont ouverts, on peut recevoir de la famille. Donc, est-ce que vous avez pas ce sentiment de confinement qu'on a ici au Québec?
Pas du tout. C'est vrai qu'on est assez privilégié. La Suisse partage des frontières avec la France, l'Allemagne et puis l'Italie. Et puis donc nos voisins ne sont pas du tout dans la même approche. Hein. On a beaucoup plus de confinement dans les pays voisins. La Suisse, au fond, fondamentalement, ne fait pas partie de l'Union européenne. Donc, du coup, on a un traitement un peu différent, effectivement.
Oui. Et comment vous expliquez ça? Parce que vous nous parliez tout à l'heure, c'est très intéressant parce qu'évidemment, il y a tout un côté psychologique ou un côté comportemental aussi qui explique pourquoi dans certains pays, ça marche mieux que d'autres. Mais vous, votre explication, Monsieur Daigle, pour dire que la situation en Suisse est quand même bonne et qu'il y a si peu de restrictions, c'est quoi votre explication?
Je crois qu'il y en a plusieurs. Il y a certainement une question de moyens. La Suisse a quand même beaucoup de moyens, donc on peut facilement déployer des tests, facilement déployer de la vaccination, facilement déployer des organes de testing proches des discothèques, proches des festivals, etc. Et puis on ajuste constamment ces droits, on va dire, en fonction de l'épidémie. Et puis c'est vrai que j'ai envie de dire que la population joue beaucoup le jeu et puis suit quand même assez bien les règles qui se mettent en place.
Ouais. Donc, excusez-moi, juste pour être bien sûr de comprendre, vous nous avez dit que, par exemple, autour des discothèques, quand il y a, mettons, une discothèque est ouverte ou qu'il y a un festival, il y a quoi? C'est quoi des unités mobiles de tests rapides qui sont déployées autour de ces lieux-là?
C'est ça, ouais.
Génial! Ben écoutez, je vais essayer de vous trouver le numéro de téléphone de Christian Dubé, le numéro de téléphone de Dr Horacio Arruda, pour que vous puissiez leur expliquer comment ça se passe en Suisse pour peut-être pouvoir les inspirer. Écoutez, Monsieur Daigle, donc vous nous l'avez dit, vous êtes originaire de Shawinigan, vous êtes maintenant donc coordinateur de la réponse médicale dans ce canton de Vaud en Suisse. Est-ce que vos collègues suisses vous disent des fois, écoute Vincent, dans ton pays d'origine, dans ta province d'origine, ça va plutôt mal. Est-ce qu'ils vous taquinent là-dessus quand on compare avec la Suisse?
Pas vraiment, parce qu'en fait, au final, c'est un peu partout, ça va mal un peu partout sur la planète, j'ai envie de dire, oui. Là-dessus. Donc, on est plutôt à se dire qu'on est privilégié, que ça se passe aussi bien chez nous. Mais faut quand même faire attention à l'interprétation de mes mots, parce que ça se passe bien, mais on a quand même, par exemple, hier en Suisse... au-dessus de 30 000 cas positifs sur toute la Suisse. La Suisse, c'est environ 8 millions d'habitants, donc ça fait quand même beaucoup de personnes en isolement. On peut doubler les quarantaines en plus par rapport à ça. Donc si tous les jours on a autant de tests positifs, ça reste une situation qui reste assez tendue malgré tout, quoi.
Oui, on le comprend fort bien. Par contre, comptez-vous chanceux, parce que vous pouvez aller au restaurant, vous pouvez aller en discothèque, vous pouvez aller au cinéma, vous pouvez aller voir des spectacles. Alors, quand on compare quand même, vous êtes en bonne posture, même si c'est fragile et c'est vulnérable, on le comprend fort bien. Écoutez, merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui, puis on va continuer cette exploration au cours des prochaines semaines. Vincent Daigle, je rappelle que vous êtes un Québécois originaire de Shawinigan et que vous êtes maintenant coordinateur de la réponse médicale opérationnelle au Centre opérationnel COVID du canton de Vaud en Suisse. Merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui.
Ça me fait plaisir.
De la culture aux affaires publiques.
Vous écoutez
Sophie Durocher,
Cube Radio.
Depuis que le gouvernement a décidé d'imposer un deuxième couvre-feu, on est très nombreux à se questionner sur la pertinence de cette mesure-là. Ben écoutez, à l'Institut économique de Montréal, le fameux IEDM, on s'est aussi penché sur la question et ben les conclusions de l'IEDM vont sûrement soit vous surprendre ou vous faire sourire. On va en parler avec Miguel Ouellette, qui est directeur des opérations et économiste donc à l'Institut économique de Montréal. Monsieur Ouellette, bonjour.
Bonjour, Madame Durocher.
Vous avez, quand vous avez su qu'il y avait un deuxième couvre-feu, vous êtes penché sur la question de façon statistique et scientifique. Pourquoi vous avez décidé de faire des analyses sur les effets du couvre-feu?
Bien, en fait, on aurait aimé ça le faire bien avant, mais malheureusement, on n'avait pas les données. On le sait, au début, le premier couvre-feu, on n'avait que quelques semaines, mois, donc c'était vraiment difficile pour nous de faire une analyse. Mais maintenant qu'on est en 2022, on a vraiment accès à des données journalières depuis 2020. Donc, l'analyse était possible. Donc, on a tenté de jouer un peu aux avocats du couvre-feu, sans le salaire d'avocat qui vient avec, en créant divers scénarios avec des modèles économétriques pour tenter de justifier cette mesure-là. Donc, si on compare le Québec aux autres provinces, on peut voir certaines tendances qui sont similaires quant au nombre de cas, couvre-feu ou non. Toutefois, ça, c'est une simple analyse descriptive, puis ça passe pas le test de la rigueur statistique. Donc, c'est pourquoi on a utilisé divers modèles économétriques, par exemple, des effets fixes, autorégressifs, qui isolent, eux, l'effet du couvre-feu. Puis dans chacun des scénarios qu'on a fait, même si on prenait les hypothèses les plus prudentes possibles, on arrivait toujours à la conclusion que le couvre-feu n'avait aucun effet sur le nombre de cas.
OK, donc on va le répéter, Monsieur Ouellet, parce que je veux pouvoir véhiculer ce message-là en boucle, le faire rouler 25 fois par jour s'il le faut. Le couvre-feu n'a aucun effet sur le nombre de cas.
Effectivement, aucun effet. On a testé divers scénarios, plusieurs modèles économétriques. Puis honnêtement, on y a été de bonne foi. Là, on s'est dit, on veut prouver que le couvre-feu fonctionne. On veut le prouver scientifiquement. On n'est pas arrivé à cette conclusion-là. Puis ensuite aussi, on a regardé les études qui étaient utilisées pour justifier le couvre-feu que le gouvernement et certains groupes utilisent. Ça provient de pays comme la Jordanie et l'Inde, qui sont quand même difficilement comparables avec le Québec. Mais le pire dans tout ça, c'est que ce sont pas les études en soi qui sont mauvaises, mais c'est l'interprétation qu'on en fait. Parce qu'il y a plusieurs de ces études qui sont simplement basées sur une analyse descriptive de corrélation. Donc, ça nous renseigne aucunement sur l'effet du couvre-feu sur le nombre de cas. Donc, vraiment, qu'on utilise ces études-là, j'ai été extrêmement surpris de voir ça. Parce que là, de un, je me disais, comment on est pu arriver avec des études complètes qui justifient un couvre-feu en si peu de temps, parce qu'il y a des études qui avaient été publiées l'année dernière. Donc, on a regardé ça, puis on s'est rendu compte, ben non, ça justifie pas le couvre-feu, c'est vraiment juste une analyse. On met un graphique, on regarde le nombre de cas, disons, en Jordanie, puis on voit ensuite, est-ce que le nombre de cas a baissé ou monté après le couvre-feu. Mais si le couvre-feu vient avec plusieurs autres mesures, comment on peut dire que c'est vraiment le couvre-feu qui a fait diminuer le nombre de cas?
Parce que c'est quand même la base, Monsieur Ouellet, quand on parle de statistiques et surtout quand on parle de corrélation, c'est qu'il faut vraiment être capable d'isoler l'élément en particulier pour être capable de dire c'est cet élément-là qui a causé. Avant d'établir un principe de causalité, ben il faut pouvoir le prouver de façon claire. Alors ce que vous dites, c'est simplement on met deux choses en parallèle. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé parce que dans le communiqué que vous avez émis, vous dites c'est comme affirmer que plus il y a de noyades, moins le Canadien joue de partie, alors qu'en fait il y a aucun lien entre les deux. C'est simplement le fait que ben le Canadien il joue pas l'été, puis il y a plus de noyades l'été parce que les gens sont en vacances puis ils vont dans leur piscine. Mais personne viendrait l'idée d'aucun gouvernement de dire bon ben on va, pour s'assurer qu'il y ait moins de noyades, on va s'assurer que le Canadien joue 12 mois par année.
Ben effectivement. Puis ce qui est difficile, c'est vraiment de vulgariser un peu les modèles économétriques. C'est vraiment un travail difficile pour nous. Mais là, on essaie d'y aller avec des exemples pour montrer à monsieur, madame, tout le monde que c'est pas parce qu'il y a une étude académique qui sort que c'est vraiment la science absolue. Ça se peut que ça soit l'interprétation qu'on en fait qui est pas nécessairement bonne, puis c'est ça qui arrive en ce moment. Donc, vraiment, mon point, là, c'est après d'avoir vraiment validé que le couvre-feu n'a aucun effet sur le nombre de cas, puis d'avoir validé que les études qui nous sont fournies à la population sont pas des études qui peuvent justifier le couvre-feu, mais là, le gouvernement a deux choix. Soit de reculer sur le couvre-feu immédiatement, ou de fournir des études béton, puis pas du béton avec de la pératite, là, du vrai béton, fournir des études rigoureuses pour nous prouver qu'effectivement le couvre-feu fonctionne, parce que c'est pas ce qu'on a trouvé, nous.
D'accord. Et d'autant plus, Monsieur Ouellet, que c'est un gouvernement qui, depuis le début de la pandémie, le gouvernement Legault, nous dit, ben nous, c'est la science qui mène nos actions. Chaque fois qu'on prend une décision de santé publique, c'est mené sur la science, c'est basé sur la science, la science, la science, la science. Ben là, la science, c'est absolument pas. La fondation est extrêmement fragile. Donc, est-ce que c'est ça que l'IEDM réclame suite à cette analyse que vous avez faite? Vous réclamez de la part du gouvernement qu'il mette fin au couvre-feu?
Ben effectivement, on réclame deux choses, en fait. On réclame, la première chose, c'est plus de transparence envers la population. Parce que c'est sûr que pour monsieur, madame, tout le monde, il y en a certains qui, rendus à 10 heures le soir, ils prennent leur thé noir à l'intérieur au chaud, puis ils sont bien. Mais il y en a d'autres, des plus jeunes, ou disons d'autres gens là, qui aimeraient sortir, aller prendre une marche ou simplement aller prendre l'air froid de l'hiver. Mais là, on peut pas faire ça, donc on voit que ça brime quand même la liberté des individus. Donc, ce qu'on dit, c'est que la moindre des choses à faire, si on y va avec une mesure draconienne comme ça, c'est vraiment d'être transparent avec la population puis de dire non, la justification n'est pas scientifique, parce que c'est pas le cas, mais on gère avec les intuitions quand ça arrive au couvre-feu. Faut au moins être transparent. Si c'est ça, dites-le, soyez honnête. Donc, si c'est vraiment que le gouvernement nous dit non, non, on croit que c'est scientifique, ben là, nous, on arrive avec nos études et voilà. On dit non, c'est pas scientifique. Là, le fardeau de la preuve est vraiment dans leur camp pour nous dire si oui ou non, selon eux, c'est bel et bien scientifique. Puis j'espère que lors du point de presse tout à l'heure, on va se pencher sur cette question-là, parce qu'on peut pas y aller avec une mesure comme ça qui est vraiment qui affecte notre quotidien sans la prouver scientifiquement et sans vraiment que ça soit réellement légitime.
Oui, très intéressante discussion, Miguel Ouellet. Je rappelle que vous êtes directeur des opérations économiste à l'Institut économique de Montréal. Écoutez, bon thé noir ce soir.
J'ai très hâte de le prendre.
Oui, merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui.
Merci beaucoup. Au revoir.
Merci, merci. En tout cas, il n'y a pas de couvre-feu pour nos émissions à Cube Radio. Vous pouvez les écouter en tout temps en rediffusion sur le site Cube Radio. Je voudrais remercier Jean-François Paquet qui est réalisateur et qui est à la mise en onde. Florence Lamoureux, oui, qui est à la recherche. Merci beaucoup d'avoir été là. Je pense que j'aurais pas dû prendre deux cafés ce matin. Et merci beaucoup à vous d'avoir été là, puis on se retrouve demain.
Cube Radio.